Il a dirigé Foreign Affairs, peut-être l'une des revues de politique étrangère les plus influentes au monde. C'est un des plus grands spécialistes américains des questions de politique étrangère. Gideon Rose est le grand témoin spécial de l'ordre du monde.
Il a surtout travaillé sur les guerres et les conflits dans le monde. Il s'en occupe depuis des décennies. Donc on va lui poser toutes nos questions sur les plans de Donald Trump pour l'Iran, qui est en train réellement de gagner cette guerre.
C'est l'ordre du monde.
C'est parti. Gideon Rose,
bienvenue dans l'ordre du monde, bienvenue en France et bienvenue à BFM Business.
Great to be here.
Ravi d'être là.
Gideon Rose, vous avez été rédacteur en chef de Foreign Affairs, c'est l'une des revues de géopolitique les plus influentes au monde, et vous êtes aujourd'hui membre d'un think tank, le Council on Foreign Relations. Vous travaillez depuis des années sur les guerres et sur les conflits. C'est une expertise précieuse pour nous parce que nous observons depuis des semaines la guerre en Iran, mais il y a toujours beaucoup de zones d'ombre sur la stratégie de Donald Trump, sur ce qu'il se passe réellement sur le terrain, sur qui est en train de gagner cette guerre au fond, sur qui est en train de la perdre. Vous avez publié en 2010 un livre intitulé « How Wars End », comment se terminent les guerres. On va donc se plonger avec vous dans l'art de la guerre. On va essayer de comprendre pourquoi les guerres commencent, mais surtout pourquoi elles se terminent et comment. Première question, la plus simple en apparence, mais en réalité peut-être la plus difficile. Comment une guerre se termine-t-elle vraiment et comment celle-ci, précisément, peut-elle terminer?
Well, wars end when either...
Les guerres se terminent de deux façons. Soit l'issue devient évidente pour tout le monde, le rapport de force est clair, chacun accepte la réalité et on fait la paix, soit on tombe dans une impasse, personne ne veut vraiment gagner et les deux camps finissent par décider qu'il vaut mieux s'arrêter que continuer. Dans ce conflit, au bout d'environ un mois, une chose est devenue claire, aucun camp ne pouvait vraiment l'emporter. Les États-Unis n'étaient pas capables de faire tomber le régime iranien, ni de le contraindre à faire des concessions. Mais dans le même temps, il conserverait une puissance militaire considérable. Résultat, il est devenu clair qu'une sorte de match nul devenait l'issue la plus logique. D'autant que chaque camp avait encore la capacité d'infliger des dégâts majeurs à l'autre, les États-Unis à l'Iran et l'Iran à l'économie mondiale, notamment en perturbant le trafic maritime. Clairement, on ne pouvait donc pas aller beaucoup plus loin. C'est ce qui a conduit aux négociations. Les deux camps étaient insatisfaits du scénario du conflit, mais aucun ne voulait d'une escalade vers une guerre totale. Et c'est pour cela que je pense que l'impasse va durer. Et on ne reviendra pas à la guerre, le cessez-le-feu devrait tenir. Les détails de l'accord vont être très importants. C'est ce qu'il se passe en ce moment. Chaque camp se bat pour les détails d'un accord qui, au fond, laissera les équilibres assez proches de ceux du départ, avec quelques ajustements.
Alors, beaucoup d'experts parlent d'une stratégie très précise qui est celle de mowing the lawn, donc de tondre la pelouse. C'est une stratégie qui consiste à attaquer un ennemi pour l'affaiblir, pour détruire certaines capacités balistiques, par exemple dans le cas de l'Iran, les capacités nucléaires, sans pour autant renverser le régime qui va pouvoir repousser comme la pelouse. Est-ce que c'est ce qui est en train de se produire ici en Iran?
Is that what is happening here?
I think that is what is happening. It wasn't...
Oui, c'est exactement ce qui se passe, mais ce n'était pas l'objectif initial. Les Israéliens et l'administration américaine espéraient obtenir davantage avec cette guerre sans vraiment avoir de raison solide d'y croire. On pense que les responsables de la sécurité nationale américaine avaient d'ailleurs prévenu le président qu'il n'obtiendrait pas tout ce qu'il voulait. Mais les responsables politiques pensent toujours pouvoir réussir là où les autres ont échoué. Benjamin Netanyahou et Donald Trump ont cru qu'en exerçant suffisamment de pression, le régime iranien finirait par céder. Ce n'est pas arrivé. Et il se retrouve donc à accepter une stratégie de la tondeuse à gazon. Autrement dit, on repousse le problème, on affaiblit l'Iran, sans résoudre les questions de fond.
Kicking the can down the road, hurting Iran, but not actually solving the problems.
Les objectifs de Netanyahou et de Trump sont-ils vraiment les mêmes?
Je pense qu'ils visaient globalement les mêmes objectifs, mais les Israéliens sont plus à l'aise avec cette logique de gestion du conflit, même lorsqu'elle ne produit pas les résultats les plus ambitieux. C'est ainsi qu'ils ont opéré au fil des années, au Liban comme à Gaza. Les États-Unis, eux, adhèrent moins à cette approche et Donald Trump avait promis davantage. Il faut donc s'attendre à davantage de frustration aux États-Unis qu'en Israël, car les intérêts américains sont plus larges que ceux des Israéliens. Pour Israël, l'enjeu, c'est l'Iran. Pour les États-Unis, l'Iran compte, bien sûr, mais il y a aussi l'équilibre régional et l'ordre mondial. Et surtout, les Américains ne ressentent pas la menace iranienne avec la même intensité que les Israéliens. Résultat, cette stratégie sera probablement moins acceptée aux États-Unis qu'en Israël.
A posteriori, Donald Trump a-t-il fait une erreur en attaquant l'Iran?
C'est
mon avis, oui. Il a fait un pari.
Ça tombe bien, Trump est un joueur.
Oui, c'est un joueur. C'est un homme qui a fait faillite plusieurs fois et qui est devenu milliardaire plusieurs fois. Il faut se rendre compte qu'il gouverne les États-Unis comme il gérait ses affaires en lançant les dés. Sauf que cette fois, ce n'est pas seulement son argent qui est en jeu, c'est une crise nationale et internationale.
Vous avez écrit récemment que toute guerre repose sur deux dimensions aussi importantes l'une que l'autre. La première est négative, donc c'est le combat en lui-même. Comme vous l'écrivez, il s'agit de battre l'ennemi. La seconde est positive et elle relève plutôt du politique. Autrement dit, il s'agit de construire un avenir après avoir détruit une partie du présent, de reconstruire. Est-ce que c'est précisément ce qui manque aujourd'hui dans la guerre menée par Donald Trump en Iran? Oui, et pour une fois, c'est un point sur lequel Trump n'est pas une exception. Comme le rappelait Karl von Clausewitz, la guerre consiste à utiliser la force pour atteindre un objectif politique. Mais il est bien plus facile d'employer la force que d'obtenir un résultat politique satisfaisant. Le véritable défi, c'est donc de bâtir une stratégie qui permette de passer de la force à une solution politique. Or, c'est extrêmement difficile. C'est un angle mort classique des dirigeants, politiques comme militaires. Ce n'est pas propre à Donald Trump, qu'il s'agisse du Hamas le 7 octobre, d'Israël à Gaza ou de Vladimir Poutine en Ukraine. Les conflits sont fréquemment lancés sans stratégie claire pour parvenir à un règlement durable. Trump aurait dû le savoir, mais il refait ce que beaucoup de dirigeants américains ou autres ont déjà fait. This is what you write. Oui, d'ailleurs, c'est ce que vous écrivez. Vous disiez récemment que ça peut sembler relever du bon sens, mais qu'en matière de guerre, en réalité, le bon sens est très rare.
Uncommon.
Yes. And that's in part...
Oui, et cela tient en partie au fait que les responsables politiques n'ont pas toujours intérêt à penser sur le long terme. Ce sont souvent des profils de joueurs qui ont réussi en prenant des risques et en gagnant. Alors, lorsqu'on leur dit qu'un pari est mauvais, ils ont tendance à écarter ces mises en garde, alors qu'on les leur répète depuis le début de leur carrière. Au fond, si un dirigeant suivait strictement le bon sens, il ne serait sans doute jamais devenu chef d'État.
The status of national leader in the first place.
Is it correct to say that,
est-ce excessif de parler de l'Iran comme d'un nouveau Vietnam?
Ce n'est pas comparable, car ça se terminera vite. L'une des caractéristiques de Donald Trump, c'est sa capacité à se retirer rapidement lorsqu'il commet une erreur. Il laisse derrière lui une situation dégradée, mais ça ne lui ressemble pas de s'obstiner et de continuer à faire des choses dramatiquement stupides sur la durée. Contrairement à d'autres dirigeants, il ne s'accroche pas à une stratégie par conviction profonde. Donc non, ce ne sera ni un nouvel Irak, ni un nouveau Vietnam, tout simplement parce qu'il n'y est pas suffisamment attaché.
Et y a-t-il malgré tout un risque d'escalade ?
For Donald Trump.
Il existe un risque d'engrenage, mais le problème, c'est que l'Iran a la capacité de faire mal aux États-Unis et au-delà à l'économie mondiale. Et inversement, les États-Unis peuvent faire mal à l'Iran. C'est cette logique de destruction mutuelle qui peut empêcher le conflit de devenir total. Car même si ce conflit a déjà été très violent, nous ne sommes pas encore dans une guerre totale. Chaque camp pourrait infliger des dégâts bien plus importants à l'autre, mais je pense que nous n'irons pas aussi loin, précisément parce qu'aucun des deux ne veut une guerre totale.
Si le cessez-le-feu échoue et les combats reprennent, quels seraient les risques majeurs pour l'Iran, les États-Unis et l'économie mondiale?
C'est un point clé. On se dirigeait vers une situation sans retour possible où l'avenir ne signifiait qu'une chose, davantage de destruction. C'est précisément ce qui a conduit au cessez-le-feu. Chaque camp a voulu éviter de basculer dans une guerre totale. Si les combats reprennent, il n'y a plus d'issue, seulement la perspective d'une destruction massive, celle de l'Iran ou celle des routes pétrolières et du transport maritime dans le Golfe, avec des conséquences pour toute l'économie mondiale. Il existe donc une véritable logique de dissuasion et c'est ce qui rend aujourd'hui un retour à une guerre totale peu probable. probable.
Which is why they're probably not likely to go back to a full-scale war.
You are talking about
Vous parlez d'une impasse, d'une situation sans issue. Votre livre a été publié en 2010. Il reste pourtant d'une actualité frappante. Il y a un sous-titre. C'est « Pourquoi nous livrons toujours la dernière bataille ?» C'est vrai parce que de nombreux présidents américains, mais pas seulement, ont décidé de faire la guerre, notamment au Moyen-Orient, en pensant à chaque fois que cette fois-ci, ça allait être différent, que les États-Unis gagneraient une bonne fois pour toutes. Et aujourd'hui encore, ce schéma se répète. Pourquoi ?
And this time, it's no different. Why?
Well, because people have very, very short memories.
Parce que les gens ont la mémoire courte. Dans l'esprit de Donald Trump, le précédent le plus marquant, aussi surprenant que cela puisse paraître, c'est le Venezuela et l'Iran l'an dernier. Lorsqu'Israël et les États-Unis ont frappé l'Iran l'an dernier, il n'y a pas eu de réaction majeure, pas de véritable riposte de la part de Téhéran. Au fond, ils s'en sont sortis sans conséquence. Même chose au Venezuela, les États-Unis ont pu agir rapidement, écarter Maduro et obtenir un résultat relativement simple et rapide. Ce sont en grande partie ces exemples qui ont influencé le raisonnement de Donald Trump. Il a sans doute dit à ses conseillers, « L'an dernier, vous m'aviez prévenu que l'Iran pourrait réagir. Ce n'est pas arrivé. Vous m'aviez mis en garde sur le Venezuela et pourtant, ça a fonctionné. » Donc cette fois, il a choisi d'ignorer les objections. C'est une vision extrêmement court-termiste. S'il avait pris davantage de recul, s'il avait regardé un plus grand nombre de conflits sur une période plus longue, il aurait probablement été beaucoup plus prudent.
Then he might have been more skeptical.
Because we are starting to know now, seven weeks, eight weeks after.
Aujourd'hui, on est sept semaines après le début du conflit. On commence à mieux comprendre comment la décision a été prise par Donald Trump. Et ce que l'on voit, c'est une décision extrêmement soudaine. Il disposait de certains éléments d'analyse, mais il a choisi de passer outre, de s'engager dans la guerre. Peut-être que le problème tient aussi à son entourage. Il s'est entouré de proches, je pense notamment à Marco Rubio, mais aussi à d'autres, qui n'ont pas forcément la capacité ni le poids politique de lui dire la vérité.
The courage, the position, the political position to tell him the truth.
Il décide seul.
Yes, I think that's absolutely true.
Oui, vous avez raison. En fait, la réalité, c'est que le Golfe Persique concentre une part considérable du pétrole mondial, essentiel au fonctionnement de l'économie globale. Or, l'équilibre des puissances dans la région est profondément instable. Cela impose d'avoir une organisation, une puissance capable de maintenir la stabilité et de garantir les flux énergétiques. Et avec un Iran qui ne se contente pas de faire pression sur ses voisins, mais qui progresse vers des capacités nucléaires et renforce ses moyens militaires conventionnels, le risque est bien réel. Il n'y a donc pas de solution simple. Trump a été stupide de vouloir apporter une réponse rapide et facile à un problème qui ne l'est pas, parce qu'il refusait d'assumer les compromis, pourtant inévitables.
À ce stade du conflit, l'Iran est-il plus fort ou plus faible ?
À les deux. Ils sont plus forts d'une certaine manière, parce qu'ils savent désormais qu'ils peuvent encaisser ce que les États-Unis infligent et survivre. Et ils ont aussi démontré qu'ils étaient capables de perturber le trafic maritime dans le Golfe. Une capacité que l'on pensait théorique, mais qu'ils ont, cette fois, concrètement mise en œuvre. De ce point de vue, leur position s'est renforcée, mais dans le même temps, ils ont été frappés. Leurs capacités ont été détruites, leurs chaînes de commandement fortement affaiblies. Difficile dans ces conditions de parler d'un véritable vainqueur. Ils tirent certains avantages face aux États-Unis, mais aucune des deux parties ne souhaiterait être à la place de l'autre. C'est bien pour cela que l'on peut espérer une issue négociée plutôt qu'une escalade. Au fond, tout le monde est perdant.
Nous enregistrons ce podcast le 16 avril, donc au moment où vous l'écoutez ou vous le regardez chez vous, vous en saurez peut-être plus que nous aujourd'hui, mais à cet instant précis, le détroit d'Ormuz est bloqué par les Iraniens comme par les États-Unis. Et le premier but de Donald Trump, c'est celui de rouvrir ce détroit. Donc il veut rétablir la situation telle qu'elle était avant le début de la guerre. Est-ce qu'on peut dire que c'est un échec majeur ?
Oui, c'est
clairement un échec. Reste à savoir quel type d'accord négocié pourra émerger après cela, car il y avait déjà un accord avec l'Iran, l'accord de Vienne, sur le nucléaire iranien, dont Donald Trump s'est retiré. À l'issue de cette séquence, il y aura sans doute un nouvel accord conclu avec l'Iran, mais absolument rien ne dit qu'il sera meilleur que celui que Donald Trump a rejeté. La réalité, c'est que les responsables politiques n'aiment pas les compromis difficiles, sauf qu'on en avait trouvé un. Cet accord n'était certainement pas parfait, mais il était préférable à la guerre. Donald Trump s'est retiré de l'accord avec l'Iran en espérant une alternative, puis il a choisi la guerre en espérant que ça donne un meilleur résultat. Et au final, on risque de revenir au point de départ. Autrement dit, tout cela était largement évitable. Comme le dit un vieux proverbe, l'expérience a un coût, mais certains n'apprennent que par elle. Chacun pense pouvoir faire mieux que son prédécesseur sans avoir à accepter les compromis que ce dernier avait consenti à faire. Et aujourd'hui, on comprend pourquoi ces compromis étaient nécessaires.
And now we understand why those compromises are necessary.
Il y a une autre bataille intéressante à regarder. Téhéran et Washington s'affrontent aussi sur le terrain de la communication. Qui gagne cette bataille?
La meilleure réponse que je peux vous donner, c'est sans doute d'ignorer ce que disent les deux camps. Aucun des deux n'est véritablement fiable quand il s'agit de donner une vision exacte de la réalité. Il faut regarder les faits, et uniquement les faits. Avec les États-Unis, c'est parfois comme regarder la télévision sans le son. On observe ce qui est fait, pas ce qui est dit, car les déclarations, en particulier celles de Donald Trump, peuvent être déroutantes, parfois pour provoquer une réaction, parfois pour menacer, et parfois sans véritable logique.
C'est la stratégie de la provocation.
C'est une stratégie, mais surtout un miroir de la réalité. La théorie de l'homme fou marche un peu pour Trump, pas parce qu'il est réellement fou, mais parce qu'il ne pense pas comme les autres et il est prêt à faire des choses que les autres n'osent pas. D'où la difficulté à s'en tenir au discours. Mieux vaut s'en tenir aux faits plutôt que d'écouter ce qu'un tel ou un tel en dit.
Que ferait Henry Kissinger s'il était confronté à cette situation en Iran?
Henry Kissinger était à bien des égards un maître dans l'art de transformer un conflit en une sortie négociée débouchant sur un équilibre régional plus stable. L'un de ses coups majeurs reste la fin de la guerre de 1973 entre l'Égypte et Israël. Il a su transformer une fin de conflit, la guerre de 1973, en une véritable architecture de paix au Moyen-Orient qui aboutira aux accords de Camp David en 1978 et à une paix durable entre Israël et l'Égypte. Donc si on avait un Kissinger aujourd'hui, on chercherait sans doute à utiliser les négociations pour bâtir une structure de sécurité stable dans le Golfe. Malheureusement, les profils de ce type sont rares de nos jours et il est plus probable que l'on aboutisse à un compromis temporaire, fragile et appelé à être remis en cause à la prochaine crise.
En fait, tout le monde cherche son Kissinger.
Oui, sauf que Keir Starmer n'est pas Winston Churchill, selon Donald Trump, et Donald Trump n'est pas Henry Kissinger non plus. Merci beaucoup, Gideon Rose. Je rappelle que vous êtes l'ancien rédacteur en chef de Foreign Affairs, membre du Council on Foreign Relations. Merci pour vos analyses, pour votre éclairage.
C'était un plaisir.
Vous êtes ici chez vous, Gideon. Merci beaucoup, en tout cas. C'était un plaisir de recevoir Gideon Rose dans L'Ordre du Monde. On vous propose maintenant des rendez-vous, des bonus dans L'Ordre du Monde avec des interviews, des grands témoins exceptionnels pour essayer de mieux comprendre les coulisses de cette politique internationale absolument cataclysmique.
Oui, et puis pour prendre le temps d'aller un peu plus loin dans les questions qui nous intéressent, pour faire de l'analyse avec des experts qui ont travaillé sur ces sujets pendant des années, qui peuvent répondre à nos questions, parce que c'est vrai qu'on en a beaucoup encore sur ce conflit en Iran. En tout cas, n'hésitez pas à poser vos commentaires, à poser vos questions, à poster vos commentaires sous la vidéo sur YouTube, sous le podcast sur Spotify. Nous, on vous lit, on fera vos retours, on refera des épisodes comme ça s'ils vous ont plu, s'ils sont...
Moi ça me plaît en tout cas, ça va.
Toi ça te plaît, voilà, tout est bon. Voilà. Et nous on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de L'Ordre du Monde.
Merci Annalisa, au revoir à tous.